il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil si vous nous rejoignez. Et voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Union européenne arrive en ordre dispersé à Bruxelles pour le Conseil européen d'aujourd'hui et demain, les 28, dos au mur face à une opinion publique qui se durcit sur le sujet de la migration. L'exemple allemand est flagrant, va nous dire Cyril Sauvageau. Mais d'abord, nous irons à Malte, où le bateau humanitaire Lifeline a pu accoster hier soir.
En Europe et en France, l'essentiel et l'accessoire, le billet politique de Frédéric XVI à 8h16, reviendra notamment sur les enjeux de ce sommet européen.
Au Mexique, Andrés Manuel López Obrador sur la route de la présidence de la République. Le candidat de gauche a tenu son dernier meeting dans un stade de Mexico rempli de ferveur hier soir. Reportage dans un instant d'Olivier Poujade.
Et puis la mise en examen du groupe Lafarge pour ses activités troubles en Syrie, elle semble inéluctable. Reste à savoir précisément pour quel chef d'inculpation l'entreprise est convoquée ce matin par la justice. Explication à suivre de Sarah Guibaudot.
Enfin, comment réagissent les syndicats lycéens après les annonces du gouvernement sur le futur service national universel? Réaction avec Tiphaine Honoré à la fin de ce journal. Après une semaine d'attente en Méditerranée, le navire humanitaire Lifeline est donc arrivé dans le port de La Valette, à Malte, hier soir. Après l'Aquarius et le bateau symbole de la crise politique qui se joue actuellement au sein de l'Union européenne sur l'accueil des migrants, ceux qui étaient à bord du Lifeline, 233 exactement, tous secourus au large de la Libye, devraient prochainement rejoindre l'un des 8 pays volontaires pour les accueillir. Mais en attendant, ce sont les autorités maltaises qui se chargent des premières formalités. Nathanaël Charbonnier.
Ce n'est pas un bateau fantôme, mais presque. Le Lifeline est bien arrivé hier soir dans le port de La Valette, mais le quai sur lequel il s'est amarré est totalement fermé. Impossible de le voir, impossible de l'approcher, mais il est là avec ses passagers qui doivent répondre aux questions administratives des autorités maltaises. Questions administratives et examens médicaux également, car selon les premières informations, certains migrants seraient dans un état dit détérioré. Difficile d'en savoir plus, mais 3 femmes auraient été transportées à l'hôpital avec leurs enfants, de nombreux passagers souffrirait aussi de mal de mer. Une fois les questions sanitaires terminées, il s'agira de s'occuper des questions politiques puisque l'on sait que 8 pays sont prêts à accueillir des réfugiés, dont la France. En tout cas, sur place, l'arrivée du bateau est peu commentée, la population étant plus préoccupée par le mondial et par les animations culturelles. La Valette, ville classée à l'UNESCO, est, en cette année 2018, capitale européenne de la culture.
Précision de notre envoyé spécial Nathanaël Charbonnier. Seuls les véritables demandeurs d'asile auront droit à une protection. Les autres seront immédiatement rapatriés. Déclaration du Premier ministre maltais, Joseph Muscat. Déclaration de fermeté à l'image de cette Union européenne marquée par l'arrivée au pouvoir des populistes en Italie, mais aussi par l'absence totale de solidarité du groupe de Visegrad pour la relocalisation des réfugiés. Les 28 vont pourtant devoir s'entendre aujourd'hui et demain au Conseil européen de Bruxelles, Quentin Dickinson.
La question de la gestion des flux migratoires n'est certes pas le seul dossier de poids à l'ordre du jour des 28 chefs d'État et de gouvernement cet après-midi, mais elle écrase tous les autres thèmes, tant elle est à la fois grand public et politiquement chargée. Les positions antagonistes sont connues, les 4 pays d'Europe centrale ne veulent accueillir aucun migrant, pas même les réfugiés reconnus par les Nations Unies et que les conventions internationales leur font obligation de protéger. Ceci fait obstacle au système de répartition équitable des réfugiés, en particulier syriens, entre les 28 pays de l'UE, pourtant régulièrement adoptés par les ministres européens. C'est un camouflet sans précédent à 2 principes fondamentaux de l'Union européenne, la solidarité entre pays membres et le respect des décisions prises en commun. Mais paradoxalement, la tonitruante priorité donnée au contrôle des flux migratoires par les partis au pouvoir en Autriche, en Hongrie, en Italie, sans oublier la Bavière, devrait aboutir à consacrer la défense des frontières extérieures de l'UE, en premier lieu par le renforcement de la force européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dont les effectifs passeront à plus de 10 000 agents. On n'est plus en période électorale et plus personne ne soutient sérieusement que l'on peut se réfugier efficacement à l'intérieur de ses frontières nationales. L'approche pan-européenne s'imposera donc tout naturellement.
Correspondance à Bruxelles de Quentin Dickinson. Célébrée il y a encore 2 ans comme la championne du monde libre face au populisme, la chancelière Merkel est aujourd'hui fragilisée face à son opinion publique et au sein même de sa coalition. Elle arrive à ce Conseil européen dos au mur avec cet ultimatum fixé par son ministre de l'Intérieur, faire adopter des mesures de stricte restriction de l'immigration illégale. Cyril Sauvageau.
Elle ne peut pas revenir de Bruxelles les mains vides. Angela Merkel n'a pas le choix. Il lui faut impérativement un résultat pour désamorcer la crise politique qui menace son gouvernement. Son ministre de l'Intérieur, le Bavarois de la CSU, Horst Seehofer, a beau répéter qu'il ne veut pas faire chuter la grande coalition, il maintient son ultimatum. Faute de compromis au Conseil européen, il fermera les frontières dès la semaine prochaine aux migrants enregistrés ailleurs dans l'Union. Face à ce coup de force, la chancelière est sous pression, mais elle ne peut pas faire de miracle. Le mini-sommet du week-end dernier a donné le ton. Un accord global semble hors de portée. Le seul compromis sur lequel les pays membres devraient s'entendre porte sur le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Faute de mieux, Angela Merkel pourrait demander un feu vert pour négocier des accords bilatéraux de réadmission des migrants avec des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, de quoi peut-être calmer la fronde des conservateurs allemands, mais sans apporter la moindre réponse globale aux défis migratoires.
Explication à Berlin de Cyril Sauvageau. Aux États-Unis, c'est une institution majeure qui tranche sur tous les sujets de société, notamment les lois migratoires. On l'a encore vu hier avec le décret anti-immigration du président Trump qui a été validé. La Cour suprême va perdre l'un de ses 9 juges à la fin du mois de juillet. Anthony Kennedy, 82 ans, a annoncé qu'il allait prendre sa retraite dans un mois. L'enjeu pour le remplacer est donc très important sur le plan sociétal et le processus va débuter immédiatement, a déclaré Donald Trump, le président américain qui compte en profiter pour faire basculer un peu plus l'institution dans le camp conservateur. Donald Trump, qui doit se rendre au Royaume-Uni le 13 juillet prochain, et le pays ne manque pas d'humour ni d'air pour s'y opposer. Des activistes ont prévu de faire voltiger au-dessus de Londres un bébé gonflable à l'effigie du président américain. Face à l'engouement que provoque le phénomène, ces activistes ont même décidé d'organiser une tournée pour suivre le président dans tous ses déplacements à l'étranger. Antoine Gignoux.
C'est un gigantesque ballon orange avec des langes retenus par une épingle à nourrice et la tête du président des États-Unis. Dans le hangar où il est stocké, le mini-Trump arrive jusqu'au toit. L'idée, c'est un militant écologiste qu'il a eu. Il est ces derniers jours à la une du Times, invité par CNN. Il s'appelle Léo Murray.
Au fond, c'est un gros bébé joufflu et rond avec des mains minuscules et un téléphone. La moquerie, c'est le bon moyen d'attirer l'attention de Donald Trump et son égo incroyablement fragile.
Sur le site internet qui sert à récolter des dons, le message est clair. Aidez-nous à montrer à Trump que toute la Grande-Bretagne le méprise. Avec 11 000 euros récoltés, les organisateurs vont se lancer dans une tournée mondiale en suivant les déplacements du président des États-Unis.
Bébé Trump va commencer à le hanter et à le suivre partout. Ce n'est pas une façon de protester contre l'Amérique ou les Américains, c'est une façon de s'insurger contre ce que Donald Trump est en train de faire à l'Amérique, quelque chose de vraiment effrayant.
Le ballon gonflé à l'hélium a déjà lui aussi commencé à effrayer les politiques. Le maire de Londres refuse de lui faire survoler le Parlement, il sera probablement installé au-dessus d'un terrain privé ou sur la Tamise.
Un reportage à Londres d'Antoine Gignoux. Le Mexique en pleine campagne électorale. La présidentielle dimanche pourrait faire basculer le pays à gauche car les sondages annoncent un raz-de-marée AMLO. AMLO, les initiales du candidat Andrés Manuel López Obrador. Il se présente pour la troisième fois à l'élection suprême et cette fois-ci il pourrait bien l'emporter. Tout en résonance avec la qualification de son pays pour les huitièmes de finale au mondial de foot hier, AMLO donc s'est exprimé pour son dernier meeting depuis le stade Aztec de la capitale. C'est un reportage d'Olivier Poujade.
Il fallait bien ce stade légendaire pour satisfaire ces dizaines de milliers d'âmes lovers, ces amoureux du phénomène López Obrador.
Il y a tellement de gens ici. C'est pour lui que le stade est rempli. C'est un immense bonheur.
Il est le seul candidat à avoir parcouru tout le territoire, un périple de 4 ans, à prêcher cette parole anti-système et anti-corruption qui le rendent si populaire aujourd'hui.
Le principal problème du Mexique, c'est la corruption. C'est la principale cause d'inégalité sociale. Nous allons finir avec la corruption, avec ce cancer qui détruit le pays.
Ses opposants le jugent autoritaire, populiste. Pour Mauro, AMLO est la seule option possible.
Il parle la langue du peuple. Il ne nous parle pas de statistiques. Il est lié au peuple. Les autres candidats ne sont pas dignes de représenter.
Le rejet des partis traditionnels, une tendance très actuelle en politique, le Mexique n'y échappe pas et AMLO en profite. Les tout derniers sondages lui accordent plus de 50% des suffrages.
8h10, vous écoutez les matins de France Culture avec le journal d'Anne Fauquemberg. En France, dans l'enquête sur les arrangements du cimentier Lafarge en Syrie, des représentants de l'entreprise sont convoqués ce matin par les juges d'instruction de Paris.
Lafarge SA, la holding actionnaire de la filiale syrienne du groupe, devrait être mise en examen comme personne morale pour financement du terrorisme, mise en danger de ses salariés et peut-être même pour complicité de crimes contre l'humanité. L'entreprise a déjà reconnu avoir versé de l'argent au groupe État islamique. L'enquête cherche maintenant à éclaircir les conditions de la fermeture du site en Syrie. Sarah Guibaudot.
C'est un nom connu des services antiterroristes. Abu Lokman, cadre de l'État islamique, il serait même devenu un responsable de la planification des attentats à l'étranger. Ce 22 décembre 2014, Abu Lokman a rendez-vous à la frontière turque avec un intermédiaire de Lafarge. L'usine est occupée par les djihadistes depuis 3 mois. Ils veulent relancer la production. C'est ce que confirment des notes récemment déclassifiées du ministère de la Défense. Daesh aurait même fait venir 200 ouvriers chinois. Est-ce que Lafarge était d'accord ? Non, ont répondu les cadres. L'intermédiaire présent à la réunion est un escroc, disent certains. Ce qui est curieux, c'est qu'Amro Taleb a pourtant été payé par Lafarge jusqu'en janvier 2015, officiellement comme consultant en matière d'environnement. Selon d'anciens salariés, il servait surtout d'intermédiaire pour acheter du pétrole aux djihadistes. Quelles qu'aient été ces discussions, fin 2014, Lafarge a refusé de relancer l'usine. Lorsque les forces kurdes en reprennent le contrôle au printemps 2015, elle n'est plus en état de marche. Seule cimenterie du nord de la Syrie. Elle représentait visiblement pour toutes les forces en présence un enjeu économique majeur.
Les précisions de Sarah Guibaudot. On l'apprend à l'instant par nos confrères de France Info. Les 10 personnes interpellées le week-end dernier dans plusieurs départements français, personnes soupçonnées de projeter des attentats contre des musulmans, ont été mises en examen. Ces membres de l'ultra-droite avaient été déférés hier devant le juge d'instruction. FO et la CGT se retrouvent aujourd'hui pour une journée de manifestation interprofessionnelle. Ils n'avaient pas défilé ensemble depuis la mobilisation contre la loi travail. Les syndicats protestent contre la remise en cause du modèle social et républicain. Le cortège parisien partira à 14h de la place de la Bastille. Le gouvernement a présenté hier les grandes lignes du futur service national universel. Il s'agira d'un service civique d'un mois obligatoire aux alentours de 16 ans, suivi d'un engagement sur la base du volontariat. Les modalités doivent encore être précisées après des consultations prévues à l'automne prochain. Les syndicats de lycéens comptent bien y participer, premiers concernés par la mesure. Ils dénoncent déjà un projet déconnecté de la réalité, Tiphaine Honoré.
Vieillot, inutile, voire démago, les syndicats de lycéens n'ont pas de mots assez durs pour qualifier le service national universel voulu par Emmanuel Macron. À l'UNLSD, Nathan Lepotier, secrétaire général, condamne aussi bien le fond que la forme.
Le gouvernement Macron est plutôt sur des effets d'annonce, des effets de manche. Sur le dialogue social, c'est absolument terrible. On essaie de nous faire croire à des concertations alors que c'est tout simplement des consultations où il y a 50 personnes dans une salle et on n'est pas en capacité d'échanger directement avec le gouvernement et capable directement de l'interpeller. Donc aujourd'hui, ça nous paraît compliqué, voire impossible, de mettre en place un SNU qui soit digne et qui permette réellement un accès à la citoyenneté des jeunes.
La dimension obligatoire de ce service est un autre sujet qui fâche les lycéens. Le SNU sera effectué sur le temps des vacances scolaires. L'encadrement et l'hébergement sont encore à définir, mais l'objectif du projet est fixé, favoriser le brassage social et inciter l'engagement des jeunes. Une mission qui devrait être assurée par l'éducation nationale, selon Marwan Majrar, président de la FIDEL.
L'école est le lieu qui doit briser les inégalités. Et nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est que l'engagement associatif soit valorisé au sein de l'école. En faisant ça, en faisant sortir l'engagement du cadre scolaire lorsqu'on est jeune, c'est mettre en concurrence l'éducation avec le service civique.
Le coût de la mesure estimé autour d'1,5 milliard d'euros est lui aussi décrié. Les lycéens préféreraient que ce budget serve à ouvrir de nouvelles places à l'université.
Merci Tiphaine Honoré pour ce compte-rendu. Le temps de ce jeudi 28 juin, toujours chaud et ensoleillé. Quelques averses localement sur les Pyrénées et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les températures ce matin de 23 à 28 degrés du nord au sud. La maximale à Perpignan, ça sera cet après-midi avec 30 degrés. Guillaume Erner.
Merci Anne Fauquemberg.